RMC Grand Plateau, Pierre Amiche.
Bonjour à tous, c'est l'histoire d'un mariage impossible entre la carpe hollandaise et le géant des Flandres. La Jumbo Visma et la Quick Step seraient sur le point de se dire oui. Un mariage d'argent qui pose question. Le cyclisme peut-il sortir grandi de l'alliance des deux monstres? Comment faire cohabiter les leaders et ennemis d'hier? Que faire des coureurs qui vont rester sur le carreau? Et surtout, l'arrivée d'un troisième larron, Amazon, son budget sans fin, va-t-il régler les problèmes ou en créer de nouveaux? Votre podcast préféré revient sur le feuilleton de la semaine et sur la fusion entre la meilleure équipe du monde et la plus grande formation de tous les temps, rien que ça. Et dans Grand Plateau, retour aussi sur la carrière d'un immense champion. Pas de fusion, pas d'effusion sur le Tour de Vendée. Peter Sagan a raccroché le vélo de route comme toujours, avec classe comme souvent dans le top 10, mais comme rarement anonyme. Que retenir du prodige slovaque et aurait-il pu faire mieux? On en parle évidemment avec la fine équipe de Grand Plateau. Lui, eh bien il n'aurait jamais accepté l'argent des GAFA, les millions des états pétroliers, les milliards des géants de la finance. En tout cas, c'est ce qu'il fait croire. Cyril Guimard, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
T'aurais dit non à des millions quand même.
Moi?
Oui.
Oui, mais après les avoir encaissés.
Autour de la table, son lieutenant, lui, va devoir refaire toutes ses fiches, reprendre tous ses dossiers, rappeler tous les agents. Arnaud Souk, bonjour.
Salut les amis, moi j'ai des statistiques sur Peter Sagan, voilà, que je vous ai concoctées, donc je vous conseille de rester parce qu'il est meilleur que Boudin, il est meilleur que Cancellara, et il est même meilleur que Cyril Guimard.
C'est pas vrai, non, ça c'est impossible, il faudra que tu revoies tes stats. Hein. Et dans quelques instants, nous serons avec le patron d'une équipe française, Manu Hubert, pour parler avec lui du nouveau monde qui s'ouvre, celui des géants ou des tout petits. Comment exister à côté des nouvelles équipes? Eh bien, on en parlera avec le patron d'Arkea Airbnb Hotel. Tout de suite, c'est parti pour Grand Plateau. Je vous l'ai dit avant d'accueillir le patron de l'équipe bretonne, Arnaud, quelles sont déjà les dernières nouvelles au sujet de la fusion entre la Visma-Soudal, la Soudal-Visma? De quoi est-on déjà sûr ce lundi, parce qu'on enregistre, il est 14h, et à quoi ça va ressembler?
Alors, c'est un dossier où il y a de très nombreux tiroirs et pas mal d'inconnus quand même. Le tiroir principal et originel étant le retrait désormais annoncé de Jumbo en tant que sponsor titre de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma à compter de 2025. C'est dans ce cadre que Richard Plouge, le patron de la formation aux 3 victoires sur les 3 grands tours cette saison, espère dénicher un nouveau partenaire financier pour l'aider à maintenir son équipe au plus haut niveau. Amazon, un temps évoqué l'an passé pour la reprise finalement avortée de l'équipe BNB Hotel, pourrait alors rentrer dans l'arène, ce qui pourrait accompagner une fusion de la Jumbo-Visma avec l'équipe belge de Patrick Lefebvre Soudal Quickstep, qui serait alors potentiellement absorbée, en croire les récentes informations du site néerlandais Villarflits. Des négociations ont bien été engagées, a d'ailleurs confirmé Lefebvre, le patron sportif donc de la Soudal Quickstep, dont il détient 20% des parts. Si tel était le cas, quid de l'avenir de certains coureurs? Primoz Roglic a d'ores et déjà annoncé on sait qu'il ne serait plus chez Jumbo-Visma à compter du 1er janvier 2024. Florian Sénéchal, de son côté, du côté de Soudal Quickstep, a annoncé aujourd'hui qu'il allait signer avec l'équipe Arkea. Quant à Remco Evenepoel, eh bien son avenir pourrait difficilement s'écrire, visiblement dans le cadre d'une méga formation issue de la fusion, tant ses relations avec Richard Plouge semblent médiocres. On parle depuis longtemps du transfert du jeune prodige belge chez Ineos. Selon certaines sources, son contrat avec la formation britannique la plus riche du peloton international serait même déjà ficelé. Sur l'ensemble du dossier, on devrait en savoir plus dans les prochaines heures, puisque Patrick Lefebvre a expliqué, il a promis un éclairage dès ce lundi.
Cyril, je suis obligé de venir te chercher sur ce que tu viens d'entendre. Un mastodonte comme ça, déjà, ça te plaît, ça t'excite, ou au contraire, ça te fait un petit peu peur?
Bah, faut pas être contre le modernisme, c'est peut-être une nouvelle forme de modernisme, on sait que ça existe dans le foot aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup d'argent qui circule. Là, c'est peut-être aussi la capacité de faire monter les budgets en règle générale du sport cycliste, qui reste quand même un sport relativement faible en matière de finances. Donc oui, ça peut être une bonne affaire. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de médaille sans revers. Il y aura vraisemblablement un certain nombre de choses qu'il faudra revoir à tous les niveaux. Vous savez, le projet a déjà eu lieu en France il y a quelques années, à l'époque de Francis Bouygues, qui voulait monter la plus grande équipe du monde, et que j'avais rencontré avec d'ailleurs Monsieur Daniel Potrat, et où il voulait prendre les 10 meilleurs coureurs du classement vélo à l'époque, voilà, ou le tout début du classement UCI. Ça ne s'est pas fait. J'étais pas très favorable non plus à cette époque-là. C'est dans les années 94-93. C'en est donc resté, on va dire, un vœu pieux de Francis Bouygues. Aujourd'hui, les circonstances politico-économiques sont différentes. Et par là même, ce genre de choses est possible. Alors, quid des coureurs, mais bon, les coureurs, bon, attendez, c'est pas, les coureurs, c'est pas important. Hein. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent.
D'accord, d'accord, Cyril. Arnaud, ton avis, rapidement sur cette fusion, pour toi, quelque chose de bon ou de pas bon pour le vélo, de manière un peu schématique, hein, évidemment.
Alors, je suis un petit peu partagé. Déjà, moi, je m'interroge sur si jamais il y a fusion, qu'est-ce qu'il adviendrait, parce que ça laisserait une place vacante déjà en World Tour, donc ça voudrait dire qu'une équipe supplémentaire pourrait peut-être y
et
prétendre.
Pourquoi,
alors, que ferait l'Union Cycliste Internationale, ça reste la question. Après, je suis assez sceptique, il y a un dégraissage manifeste quand même chez Soudal Quickstep depuis de nombreuses années. Ça fait plusieurs années que Patrick Lefebvre a évoqué en interne, en tout cas, même s'il continue à rester sur le devant de la scène, qu'il voulait vendre ses parts. Donc ça veut bien dire quelque chose. Et puis, si on regarde un petit peu, si ça repartait demain, quels seraient les coureurs qui seraient des têtes d'affiche? On aurait Julien Alaphilippe, mais Julien Alaphilippe est quand même plus trop ce qu'il était. On aurait Casper Asgreen, on aurait Remco Evenepoel et on aurait Mikel Landa. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc, bon, je me dis, est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça? Ça va juste renforcer un effectif déjà pléthorique chez Jumbo, quoi.
On va poser la même question à un homme qui désormais va devoir se battre encore un petit peu plus pour exister dans cet univers impitoyable qui est celui du World Tour. Manu Hubert, le patron d'Arkea B&B Hotel, est avec nous. Bonjour Manu.
Alors pas encore B&B, hein, pas encore. Hein,
ah, c'est Arkea Samsic.
Jusqu'à fin 2023, c'est Arkea Samsic.
Ah bon, j'étais trop rapide.
Et à partir du 1er janvier 2024... Bien évidemment, ce sera Arkea B&B Hotel.
Alors, je reprends, on va couper au montage. Non, je rigole. Manu, avant de parler ensemble de cette fusion qui secoue le monde du vélo, on va revenir sur un événement quand même important pour le week-end que tu viens de vivre. C'est la 8e victoire de la saison pour ton équipe, pas n'importe laquelle, puisque celle d'une recrue toute nouvelle, toute belle. Arnaud Démare s'est imposé sur le Tour de Vendée. Bon, apparemment, le garçon n'est pas trop rouillé quand même.
Non, mais ça, j'avais pas forcément de doute sur les capacités à Arnaud à rebondir. Il y a, je veux dire, c'est quand même quelque chose aussi de changeant pour lui, pour nous. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais une douzaine d'années dans une structure, bien il faut retrouver ses marques, il faut retrouver aussi la stabilité au niveau de ses équipiers. Je crois qu'hier, il a été assez bluffé par l'abnégation, par le travail de ses équipiers. Et c'est de bons présages pour la fin de saison, hein, qui s'approche grandement. Mais aussi pour l'année 2024 sur laquelle on aura bien à cœur de travailler et bien à cœur de travailler sur le fond et sur le sprint qui incombe à Arnaud et surtout ses lead-outs.
Il en est à 94 victoires en professionnel, Arnaud. C'est juste impressionnant quand même ce qu'il est en train de réaliser depuis des années. Bon, évidemment, on a la centième en tête et on serait fiers du côté d'Arkea, j'imagine, de l'accompagner vers cet objectif.
Oui, bien sûr. Maintenant, après, il faut travailler, il faut mettre les choses en place. C'est pas forcément très évident pour lui d'avoir ce changement brutal. Maintenant, après, il l'a choisi, je l'ai choisi, on l'a choisi. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a, comme dirait l'autre, il y a plus qu'à.
Il y a plus qu'à, comme tu peux le dire. Le budget d'Arkea, Manu, c'est environ 17 millions d'euros. Or, on parle d'un
un petit peu moins.
Bon, on parle en tout cas d'un investissement avec la fusion à venir de la Jumbo et de la Quickstep. On parle d'un afflux d'argent et d'un apport colossal à environ 60 millions d'euros. Quel regard tu portes sur cet afflux d'argent, toi qui n'as malheureusement pas forcément cette chance-là? Et surtout, comment une équipe comme la tienne peut exister face aux géants qui se profilent, à savoir UAE, qui est soutenu par un État, Ineos, qui est soutenu par un pur et dur milliardaire, et une équipe qui va probablement exister grâce à Amazon. Est-ce qu'on arrive à trouver sa place au milieu de tout ça?
Comme tu le dis, je veux dire, à partir du moment où on existe dans un monde de grands et on évolue dans un monde de grands, il est compliqué d'exister et bien évidemment de se battre contre des budgets. Alors, comme tout à chacun, je veux dire, c'est aussi valable pour plein d'autres sports. Sur du one shot, on peut éventuellement gagner, on peut éventuellement battre les plus forts. Maintenant, après, quand on lisse les données sur toute une saison, il est évident qu'on retrouve les plus gros budgets en tête et les moins gros un peu plus en queue de peloton.
Est-ce que tu as peur, à cause de ce genre de mouvements qui sont basés en partie sur la finance, qu'on tombe sur un vélo à deux vitesses?
Je ne sais pas si c'est deux vitesses maintenant. Est-ce que eux évoluent dans le bon sens? Est-ce que nous, on n'évolue pas? Je ne sais pas trop quoi dire aujourd'hui. Et c'est une certitude qu'aujourd'hui, c'est plus facile avec 10 qu'avec 2. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, après, voilà, eux ont cette chance de pouvoir évoluer à peut-être à 60 millions, comme tu le dis, le défini. Maintenant, après, est-ce que cette fusion est bien effective? Ça, j'en sais strictement rien. Toujours est-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu déjà d'une, et d'autre part, bien évidemment que ça crée quand même beaucoup de remous et beaucoup d'attentes aussi, parce qu'en fait, les équipes, les seules places qui restent vacantes, eh bien, sont un peu aujourd'hui au ralenti, voire complètement arrêtées, dû à cette fusion ou non.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut attendre le résultat éventuel et le départ possible de certains coureurs. Même question pour Cyril Guimard. Est-ce que le cyclisme va se diviser en deux catégories bien distinctes, avec d'un côté les géants avec des budgets quasiment infinis et de l'autre les petits qui sont là un peu pour montrer le maillot et pour essayer de faire vivre des petits sponsors?
Il y a toujours eu un cyclisme à deux vitesses, alors pour différentes raisons, mais il y a les équipes dont on parle, c'est déjà les équipes qui sont le mieux structurées, qui ont déjà les plus gros budgets et qui vont chercher les meilleurs accessites sur les grands tours ou sur les classiques. Il suffit de reprendre le classement des équipes sur le classement UCI. Ou le classement individuel, il n'y a pas de surprise. Le problème est de savoir est-ce que ça va se creuser ou pas. Quel sera, parce qu'il y a quand même d'autres points qu'on n'évoque pas d'ailleurs. Un, on a parlé des coureurs, mais comme j'ai dit, les coureurs, il y en a 8 qui intéressent et le reste, c'est un pour un. Les 8, alors c'est très simple, hein, vous avez Poggi, Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel, Dely, Tarling et Ayuso. Voilà. Derrière, vous mettez tout ce que vous voulez, mais c'est ceux qui sont.
Oui,
non, mais c'est vrai, je rigole pas.
Non, mais ils sont moins bankable et ils sont moins intéressants, bien sûr.
Bah, donc après, c'est pas eux qui vont faire le. Cela, ils comptent pas que tu prennes Pierre ou Paul, qui ont des qualités à peu près les mêmes. Quand vous devenez équipier de Poggi ou de Vingegaard, je suis désolé, vous allez au charbon et vous bossez, et le collectif fera l'écart. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 5 équipes qui dominent. Les 5 équipes, c'est UAE, Alpecine, Ineos, l'autodistonique arrive justement avec Dely, qui n'a quand même que 21 ans, et la Jumbo. C'est-à-dire que vous reprenez le nombre de coureurs, le nombre d'équipes, voilà, ça c'est la première division du cyclisme professionnel. Après, vous avez la deuxième division où on a les équipes françaises et je vais dire le reste du monde. Eux, ben, il faudra effectivement, comme le disait Hubert, sur un watch-out, éventuellement, comme on peut gagner en étant en deuxième division la Coupe de France de foot, mais sur le championnat, vous seriez avant-dernier, voire dernier. Donc, il y a des opportunités pour ces petites équipes. Est-ce que les budgets de ces petites équipes auront un retour sur investissement suffisant par rapport à ce qui va se passer au-dessus? Ce qui est quand même assez, assez troublant, c'est que, un, quid des fédérations, là, aujourd'hui? Silence complet, y compris de l'UCI. Quid par rapport aux coureurs, là, dont je disais tout à l'heure,
moi, c'est pas, sur les syndicats. C'est pas avec...
Bon. Des syndicats qui n'en sont pas, d'ailleurs, c'est des commissions de la fédération. Pas un mot, rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cyclisme va être dirigé tout simplement par un certain nombre d'équipes que j'ai citées et qui vont s'arranger, et y compris avec ASO et y compris avec l'UCI, pour faire ce que M. Verbruggen voulait faire il y a 30 ans, un circuit fermé.
Arnaud, une question pour Emmanuel Hubert, parce qu'on parlait, enfin Cyril en parlait notamment des opportunités malgré tout en cas de fusion pour vous de récupérer des coureurs. Alors on a appris ce matin que Florian Sénéchal allait signer chez vous, ce qui est une très bonne opération parce qu'on rappelle que c'est quand même un très bon Flandrien notamment. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui pourraient justement vous intéresser? Est-ce qu'un Primoz Roglic pourrait vous intéresser et serait dans vos capacités financières ou plus sobrement à Rémi Cavagna ou ce genre de coureur?
Alors, pour ce qui est de Florian, les tractations ont bien évidemment commencé bien avant cette pseudo ou cette éventuelle fusion. Et donc, c'est un coureur que nous désirerions avoir. Maintenant, après, Florian a montré aussi beaucoup d'intérêt vis-à-vis de l'équipe Arkéa Samsic. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement et en même temps, on va dire, que cette fusion. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question par rapport au fait, est-ce qu'il y a des coureurs intéressants? Bien évidemment, hein, au sein de l'équipe Quickstep, il y a des coureurs très intéressants. Maintenant, après, pour la question de Roglic, bien évidemment que ce sont des très bons coureurs et bien évidemment que ce sont des coureurs qui peuvent nous intéresser. Maintenant, eh bien, faute de budget, ouais. je ne peux même pas envisager discuter avec lui.
On rappelle que vous aviez quand même signé Nairo Quintana il y a quelques saisons de cela.
Ça veut dire que rien n'est impossible.
Rien n'est impossible. Avec,
l'argent achète tout.
Mais bon,
comme
voilà.
On dit.
Si vous nous le dites.
Manu, est-ce que tu serais favorable à, on l'a déjà entendu certains de tes confrères, notamment Marc Madiot, s'exprimer en faveur d'un salary cap comme en rugby, voire d'une limitation des budgets comme pour les écuries F1. Est-ce que tu penses que ça pourrait permettre à tout le monde de manger à sa faim dans le milieu du vélo?
Peut-être. J'ai un brûle pour point comme ça. J'ai pas forcément de réponse à cette question parce que c'est tellement compliqué. Et puis après, il y a aussi le droit du travail. En fait, je veux dire aujourd'hui, et ça c'est valable pour la France et pour certains autres pays. Vous savez qu'aujourd'hui, on se bat contre des équipes qui aujourd'hui ont des travailleurs indépendants. Donc, à partir du moment où travailleur indépendant, ça veut dire que si demain matin t'as envie d'arrêter avec un travailleur indépendant, tu arrêtes. Avec un salarié, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, bien évidemment que nous, on n'est pas à même de faire cela. Maintenant, après, on est aussi victime, mais ça, c'est aussi la loi et aussi les choses positives de nos règles nationales qui font que les charges sociales sont complètement différentes par rapport à une équipe Ineos ou Jumbo. Et donc, on ne se bat pas dans la même catégorie par rapport à cela. Et quand nous, il nous faut 1,5, et bien les autres, c'est juste 1. Donc, et 1 point à la ligne. Et donc, ben, 1,5, quand tu as un budget encore différent et certainement inférieur, notamment à ces équipes, eh bien, on se rend compte de la valeur sportive de l'équipe, la valeur humaine aussi, enfin humaine, je veux dire, de la quantité de champions qui peuvent exister dans ces équipes, eh bien, on est en disparité complète. Donc, avant de parler de salary cap ou de budget cap, je pense que là-dessus, il y a ces choses-là qu'il faudrait peut-être évoquer. Et puis, peut-être, comme le dit Cyril, peut-être que les instances doivent peut-être agir en fonction de cela. Maintenant, après, chaque pays a sa loi, chaque pays a sa façon de travailler, a sa façon de faire. Voilà, le foot français n'est pas le même que le foot espagnol, ou l'italien, ou le belge, comme le cyclisme.
Eh bien, en tout cas, merci Manu. On te souhaite une belle fin de saison avec Arkéa Samsic. Et on espère que tu vas pouvoir te battre avec tes armes encore longtemps et faire, qui sait, voler haut les couleurs françaises.
Il y a Paris-Tour hein, dimanche. Attention,
bien
Arnaud
sûr,
Démare est un spécialiste.
Bien sûr, Arnaud Démare l'a déjà
exactement,
gagné.
Exactement, non, mais je veux dire, après, il y a moyen d'exister, il y a moyen de faire. Maintenant, après, comme le dit Cyril, d'être dans les 5 premières équipes, eh bien oui, ça reste très, 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 très compliqué. Et tant qu'il n'y a pas ces évolutions budgétaires, il est évident qu'à un moment donné, on se retrouve dans la deuxième partie de tableau.
Merci beaucoup, Emmanuel Hubert.
Au plaisir, merci, au revoir.
À très bientôt, au revoir. Lui n'a pas mis un terme à sa saison, mais à sa carrière. Fantasque, fantastique, le coureur le plus spécial de la décennie écoulée, en tout cas à mes yeux, a décidé de raccrocher. Peter Sagan, le prodige slovaque, faisait ses adieux ce dimanche sur le Tour de Vendée. Entre classe, émotion et souvenirs, retour en archive et en audio sur la classe, signé Peto et ses lieux, signé Kevin Pogam.
Il y a encore pas mal de monde pour essayer de l'emporter sur cette cinquième étape du Tour de France 2019. Alors que Peter Sagan est en train de lancer son arrêt, est-ce qu'il va réussir à s'imposer cette fois? Peter Sagan qui lève les bras et qui l'emporte. Peter Sagan qui s'impose ici à Colmar.
Peter Sagan, the sprint, the moment when you went wide in that curve, was that the moment you lost today?
Non.
Je peux vous dire que tout le monde dans le monde du cyclisme se réjouit de voir Peter Sagan gagner enfin sa grande classique. Allez, regardez comment il salue la foule. Terminator a gagné.
Deux ans après le Tour des Flandres, Sagan remporte l'Enfer du Nord, lui qui n'avait jamais connu de réussite dans cette course.
Il va son sprint de loin. Alexander Kristoff avec Michael Matthews, Peter Sagan. Alexander Kristoff toujours en tête avec Peter Sagan qui débouche.
C'est Peter Sagan. Le triplé, c'est unique dans les annales des championnats du monde. Peter Sagan qui décroche un troisième titre mondial.
Certains disent que vous êtes un peu le Ibrahimovic du vélo. C'est qui Ibrahimovic?
Oui, c'est Ibrahimovic.
Cyril, Arnaud, quelle est l'image que vous allez retenir de ce coureur assez atypique? Cyril, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de nous confesser?
Confesser est un bien grand mot. Hein.
De te rappeler alors.
je préfère. Je suis jamais allé à confesse. Hein. si vous voyez ce que je veux dire.
Bah, il est jamais trop tard pour bien faire.
Oui, mais non, je suis pas.
Attends, c'est loin du sujet. Surtout que tu as des choses à dire. Mais bon,
c'était
bref,
pas le sujet.
Non, c'est loin du sujet. Quelle est l'image que tu retiens de Peter Sagan?
L'image que j'ai, c'est le Peter Sagan qui arrive sur ses premiers Tours de France. Et qui en deux trois étapes devient une rockstar avec des comportements qui sont totalement différents du reste de peloton. Il faut savoir quand même que le sport cycliste est un sport très traditionnel où il ne fait pas bon sortir un petit peu du rang. Il faut savoir ne pas dire que tu as envie de gagner le lendemain, ne pas t'amuser à rouler sur une roue dans les 50 derniers mètres d'une course, faire attention sur les podiums parce que aujourd'hui tu pourrais aller en prison. Enfin bon, il a apporté un sang frais au cyclisme qu'on avait besoin, de la convivialité, de la joie, du bonheur. Malheureusement, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu, il s'est un petit peu perdu. Et moi, je suis désolé pour lui parce que c'est l'un des plus beaux champions qu'on ait jamais eu, même s'il pouvait pas gagner des grands tours. Mais il avait une science de la course, il avait une science du sprint. Moi, je me souviens quand il est champion du monde au Qatar. Pour moi, c'est sûrement le plus beau sprint qu'il fait en étant tout seul contre Cavendish et les autres. Donc, il était aussi capable de faire ça. Et puis, il a perdu la foi il y a quelques années suite à une séparation. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, il a mal fini sa carrière. C'est dommage, même si... on va dire, il a fait le Tour de Vendée, il a fait le taf au Tour de Vendée, oui.
On va y revenir justement pour sa dernière.
Il part sur une petite course et pour moi, c'est un peu triste. À la limite, il n'y a que nous qui allons en parler.
Arnaud, quelle est l'image que tu retiens de Peter Sagan?
Il était assez jeune, hein, Peter Sagan. Il est assez jeune, pardon, 33 ans. C'est vrai que c'est relativement tôt pour arrêter sa carrière. Moi, je retiendrai une image. Enfin, il y en aurait des milliers, évidemment. Mais moi, celle qui m'a le plus marqué, et à chaque fois qu'on me parle de Peter Sagan, je pense à ça, c'est le jour où, sur le Tour de France 2019, un spectateur au bord de la route lui demande de signer un autographe sur son bouquin. Et Peter Sagan a signé l'autographe tout en continuant à rouler. Voilà, il y avait des petites vidéos de ça qui étaient assez rigolotes. Et ça dit tout en fait de ce personnage qui, même s'il a 121 victoires dans sa carrière, ou même plus que ça, 132 pardon, victoires dans sa carrière, il s'est jamais trop pris au sérieux et c'est ça qui en faisait voilà, peut-être un mythe plus que les autres coureurs. Je vous disais en préambule de cette émission qu'il était meilleur que Cancellara, meilleur que Tom Boonen. J'en veux pour preuve sur les 1075 jours de course, écoutez bien, qu'il a réalisé dans sa carrière, il a donc 132 victoires, donc ça veut dire que 12% des jours où il a couru, il a gagné. Je sais pas si on imagine.
C'est quand même assez énorme.
321 top 3, donc ça veut dire que 30% des jours où il a couru, il a terminé sur le podium, et 522 top 10. Ça veut dire qu'une fois sur deux en moyenne dans sa carrière, il était dans le top 10 de la course ou de l'étape sur laquelle il s'est aligné. Enfin, je trouve ça juste colossal. Hallucinant en fait. C'est colossal pour vous donner un élément de comparaison. Boonen, qui est quand même un coureur à peu près de la même trempe et du même profil, lui, il n'était qu'à 35% de top 10 dans sa carrière.
Moi, je vais retenir trois petites choses. Déjà, c'est ses wheelings sur les cols du Tour de France que j'ai toujours adoré. C'est son habileté sur un vélo. Je l'ai vu monter sur le toit d'une voiture. En vélo, donc c'est quand même plutôt sympa. Et puis la dernière chose, c'est ses interviews monosyllabiques. Hein. Il est capable de répondre oui.
Avec un accent reconnaissable entre mille.
Ouais,
I think it was a great day today.
et j'ai toujours adoré ce coureur pour ce qu'il fait sur le vélo et pour ce qu'il a réussi à faire en dehors. Malgré tout ça, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est en droit déjà de l'être, mais est-ce qu'on a le droit d'être déçu du palmarès de Peter Sagan? Arnaud, tu as compilé quelques chiffres hallucinants, tu nous les as donnés, mais est-ce qu'on a quand même le droit d'avoir quelques regrets?
Alors,
de ce qu'il a
moi perso, je vais laisser la parole à Cyril dans quelques instants, mais j'aurais juste quand même qu'on retienne que ce garçon est le seul de l'histoire du cyclisme sur route à avoir été trois fois champion du monde d'affilée.
Ouais, c'est énorme.
D'autres coureurs l'ont fait, comme Oscar Freire au début du 21e siècle, mais c'est le seul à l'avoir fait trois fois d'affilée. C'est juste hallucinant. Et s'il l'a pas fait quatre fois d'affilée, à la limite, c'est parce qu'en 2018 à Innsbruck, le parcours était pour un spécialiste de la montagne ou en tout cas un puncher.
Ouais.
Il a quand même gagné le Grand Prix E3. Il a quand même gagné Gent-Wevelgem à trois reprises. Il a gagné le Ronde 2. Il a gagné Paris-Roubaix. Enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux quand on est un Flandrien.
Tu me l'avais dit avant, sept maillots verts
sur le Tour de France. Il termine deux fois deuxième de Milan-San Remo. C'est peut-être le seul regret à la limite que j'aurais sur son palmarès si j'étais à sa place, mais pour un pur Flandrien comme lui, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux.
Cyril, même question, est-ce qu'on a le droit d'avoir
un petit arrière-goût pas amer, mais d'être un peu déçu. Il aura finalement jamais gagné Milan-San Remo. Il aura peut-être loupé quelques victoires qui semblaient à sa portée.
Oui, d'abord, on n'a pas jugé sa carrière sur le personnage en tant que tel. Mais il est vrai que depuis 5 ans, il l'avait dit d'ailleurs à une époque, je m'amuse plus dans le vélo. Je m'amuse plus sur le vélo, je m'amuse plus dans les courses. Et depuis ce moment-là, son taux de victoire ou de top 3 ou de top 10 a énormément chuté. Sinon, je vous imaginez, parce qu'il a quand même que 33 ans, s'il avait gardé la même motivation qu'il avait sur ses premières années, le nombre de victoires, je ne sais pas si on ne l'aurait pas doublé par deux. Et c'est en cela, et que je disais tout à l'heure, sa fin de carrière n'est pas l'image du champion qu'il est.
C'est vrai qu'il a que 8 victoires sur les 4 dernières années sur les 132 victoires en professionnel, donc c'est hallucinant. Ouais. J'avais aussi relevé un autre élément assez rigolo et révélateur finalement de ce qu'est Peter Sagan. Sachez que entre le 14 juin 2011 et le 23 juin 2019, sur toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné, à l'exception des contre-la-montre et des championnats du monde, il était porteur d'un maillot distinctif. Je ne sais pas si vous vous rendez
compte.
Champion de Slovaquie, maillot vert, maillot cyclamen, maillot jaune, tout ce que vous voulez, maillot arc-en-ciel champion de champion du monde. Pendant 8 années d'affilée, il a été porteur d'un maillot distinctif sur toutes les courses lesquelles il s'est aligné. Enfin, c'est juste incroyable.
Ça contribue forcément à cette image. Peter Sagan était l'une des grandes stars du peloton avant l'avènement des Pogacar, Van Der Poel, Van Aert et compagnie. Dernière question, Cyril. Moi, je suis un petit peu chagriné et tu l'as évoqué. Que ce monument du cyclisme fasse ses adieux sur une course sans faire offense à celle qu'il a disputée, mais un peu anonyme. Je crois que sa dernière course sur route, ça permet normalement de dire au revoir à un seigneur. Et pour son ultime sortie, Peter Sagan, il s'est mué en poisson pilote pour le jeune sprinter de Direct Energy, Sandy Dujardin. Je sais, Cyril, que tu n'aimes pas trop les choses larmoyantes, mais est-ce que tu as trouvé le fait de se muer en poisson pilote élégant ou pas du tout? Et surtout, ces adieux sur une course anonyme, est-ce que tu les regrettes? Est-ce que tu aurais voulu qu'ils raccrochent après le Tour de France?
Avait-il le choix, dans la mesure où il y avait un contrat de 2 ans avec Total Energy, de ne pas
Je te parle d'un monde idéal, tu vois, un monde symbolique.
Oui, mais bon, là, le monde idéal...
La part de rêve, quoi, tu comprends?
Oui, la grande part de rêve, oui. non, je... Bon, alors qu'il se mue en poisson pilote, c'est très bien. C'est aussi, ça fait partie d'une certaine morale. Et puis il a aussi des choses à rendre, parce qu'en 2 ans, je crois qu'il a dû gagner qu'une course, voire 2 peut-être, je sais même pas.
2 sur les 2 dernières saisons.
Sur les 2 dernières saisons. Non, honnêtement, finir sur le Tour de Vendée, qui est une belle course, mais qui est une course de deuxième catégorie, qui fait partie de la Coupe de France. Et quand vous regardez le plateau, bon, il n'y a pas grand monde. Et puis, mais ce qui est pire, c'est qu'il n'y a même pas eu une manifestation pour ce départ.
C'est ça, ouais.
Il a pris le départ, il est allé à l'arrivée, il a emmené le sprint.
Il a pris la douche et il est rentré chez lui.
Ouais, ça, je trouve ça. Après, tu sais, non, mais Philippe Gilbert, l'an passé, qui prend sa retraite sur Paris Tour, il n'a pas eu plus d'honneur, si ce n'est les journalistes qui étaient venus un petit peu.
Oui, c'était Paris Tour quand même. Bon.
Oui, non, mais certes. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus des manifestations, des effusions de joie absolue. C'est sûr que ça aurait
été. Oui, mais Pierre, il est en Vendée, au siège même de son équipe.
Oui. Non, mais je comprends.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu, quelque chose de mis en place par sa propre équipe.
Bah. On n'est pas dans le secret des dieux. Peut-être que le départ de Peter Sagan n'a pas forcément été parfaitement digéré. C'est une théorie. Hein. J'ai pas du tout eu Jean-René Bernodeau avant ça. Donc je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de plomb.
Juste un tout petit mot sur Peter Sagan, qui donc arrête sa carrière sur route, mais qui se fixe un ultime objectif. Puisqu'on rappelle que dans ses jeunes années, il était plutôt très fort en VTT. Alors c'était pas non plus Mathieu Van Der Poel, mais ça restait quand même un VTTiste de fort belle facture, j'ai envie de dire. Il a terminé 35 cinquième des Jeux Olympiques à Tokyo. Et là, donc, l'ultime objectif, il va avoir une année pour se préparer pour ça, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Paris, donc d'être sélectionné avec l'équipe de Slovaquie de VTT, peut-être même prendre part à quelques Coupes du Monde de VTT pour essayer d'avoir une meilleure position sur la ligne de départ l'an prochain du côté de Elancourt. Donc voilà, on va suivre ça avec une grande attention. Peut-être que lui aussi, puisqu'il nous dit qu'il a envie de s'amuser sur le vélo, ou en tout cas qu'il ne s'amusait plus sur la route, et ben ça va être une raison supplémentaire de s'amuser. On sait que beaucoup de coureurs adorent le VTT parce que c'est plus amusant effectivement que le vélo sur route. Donc on va voir ce que ça va donner.
Un monstre de plus.
Oui, alors petit bémol, bon, un fera qu'il reprenne une vie civile normale. De professionnels et qui perdent quelques kilos aussi, parce que sinon il ne sera pas dans les 35 premiers.
C'est le docteur Guimard aujourd'hui, diététicien, je crois.
T'as donné des conseils à Christophe Cessieux aussi
Je crois. Ouais, c'est sur le
j'arrive pas. Alors là, honnêtement, c'est perdu d'avance.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, parce que la semaine prochaine, on reviendra sur les adieux d'un autre monument du vélo, Thibaut Pinot. Et puis surtout, c'est le retour du taulier. Vous ferez bon les malins tous les deux. Christophe Cessieux, comment
j'espère qu'il aura écouté. Hein.
Ouais, j'en doute pas. En attendant, vous pouvez vous abonner, commenter, critiquer, parler du podcast partout autour de vous. Si vous aimez, vous partagez. Si vous aimez pas, bah vous partagez quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui va kiffer. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Plateau sur RMC. Ciao, ciao.